Un soir de novembre, il fait un petit peu tard, on a fini tout ce qu'on devait faire, le travail, les courses, le dîner, les enfants, tout ça. Il fait tellement froid, alors on a mis un sweatshirt pour dormir, peut-être même un pyjama. Il fait nuit noire même, mais il y a quand même la lampe de chevet. On a fermé les volets, le monde semble un petit peu étouffé, mais on entend quand même le vent qui souffle dehors. Je veux dire, pour rien au monde, on aimerait être ailleurs à ce moment-là. Et on n'a pas envie de dormir non plus, parce que c'est un moment à soi. Et parce qu'il y a aussi ce drôle d'objet sur la table de nuit qui nous fait un petit peu envie. C'est un livre. On va l'ouvrir, on le sait qu'on va l'ouvrir, mais pas avant d'avoir touché la couverture où le nom de l'auteur est en relief et en lettres brillantes. Pas avant d'avoir relu le dos du livre, ce pourquoi on l'a acheté. Pas avant d'avoir fantasmé sur le titre qui a sans doute un sens caché, qui est un indice à coup sûr. Mais on veut pas trop en savoir non plus, alors on est fichu. Hein. On ouvre la première page, on lit les premiers mots. Et quand c'est bien ficelé, on le sait tout de suite, puisque le temps a filé. Et parce qu'on est déjà trop loin pour s'arrêter, ce serait trop bête. On se dit, allez, une dizaine de pages, un chapitre, je l'ai bien mérité. On se dit, allez, je vais jusqu'à la moitié, de toute façon, je suis pas fatigué. On se dit qu'il est un peu tard, mais que rien, mais alors vraiment rien, ne vaut une bonne histoire.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'a pas fini de raconter des histoires. Elle est la reine incontestée du suspense dans le monde entier. À plus de 90 ans, elle a publié non moins de 56 romans, écoulé des centaines de millions d'exemplaires et fait trembler de délices la terre entière. Nous n'irons plus au bois, Un cri dans la nuit du renard, j'en passe, et des meilleurs. En secret, son nouveau livre, dans une traduction d'Anne d'Amour, paraît aujourd'hui et on s'en réjouit. Elle nous fait le plaisir de nous recevoir chez elle à New York. Bonjour, Marie Higgins-Clark. Oh,
good day and lovely to be with you.
Ravie de vous rencontrer.
Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une bonne histoire pour vous?
A good story has to engross
the reader. Une bonne histoire doit captiver
le
lecteur. C'est très important.
Because you've read books that you read 10 pages.
Il y a des livres dont on lit 10 pages et qu'on referme.
And you cannot let that happen.
C'est ce qu'il faut éviter quand on raconte une histoire.
I always like to leave a hook.
J'ai toujours aimé trouver l'accroche, le hameçon qui pousse le lecteur à continuer de lire, ne fût-ce qu'un autre paragraphe. Et ça marche encore après plus de 40 romans.
C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on a tant besoin qu'on nous raconte des histoires?
I think it is necessary. We were always
C'est un besoin, en effet. On nous a toujours raconté des histoires. Toute petite, je m'asseyais avec ma mère et mes tantes, et elles racontaient des histoires de famille. J'écoutais sans bouger. Je crois que je tiens ça d'elle, le goût de raconter des histoires.
Ce qu'il faut dire, Marie Higgins-Clark, c'est que vous êtes née dans une famille d'origine irlandaise. Qu'est-ce qui fait des Irlandais un peuple de conteurs?
Les Irlandais sont des conteurs nés. Vous ne verrez jamais un Irlandais aller acheter un carton de lait sans revenir avec une histoire. Ils ont ça dans le sang.
Alors avec quelles histoires est-ce que vous avez grandi? Quelles histoires est-ce qu'on vous racontait quand vous étiez petite?
Oh, c'était des histoires de famille, des ragots. Mais pas vraiment méchants. J'ai toujours adoré lire. Et j'aimais les histoires, celles qu'on lit quand on est petit. Depuis le moment où j'ai su lire, je pouvais me perdre complètement dans un livre. Ça jouait dans mon envie de devenir romancière.
Quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué quand vous étiez petite?
Toute première, je ne sais plus, mais les histoires comme Cendrillon, parce que je suis une grande romantique.
Ça, c'est la meilleure. Votre grand-mère, il paraît, sur son lit de mort, aurait dit qu'elle aurait pu écrire un roman. Comment est-ce qu'elle s'appelait, cette grand-mère, Mary?
Elle s'appelait Nora Jerkin. J'avais 3 mois quand elle est morte. Et c'est vrai qu'elle a dit, j'aurais pu écrire un livre. Bon, avec 9 enfants. Et au moment où on a recensé les femmes au foyer, quand on l'a interrogée sur ses activités, elle a répondu, lessive et repassage. Ce qui était peu ou prou la réalité.
Mais dans quelle mesure est-ce que devenir écrivain a été pour vous une façon de réaliser son rêve, une façon de lui rendre justice aussi, Marie Higgins-Clark?
Yes, I think it may have been because
oui, c'est possible. Parce que j'ai toujours connu cette histoire, son désir d'écrire. Et mon premier livre autobiographique, Kitchen Privileges, Entre hier et demain en français, je l'ai écrit parce qu'après la mort de mon père, ma mère avait cloué sur la maison une pancarte qui annonçait chambre meublée, accès à la cuisine, Kitchen Privileges. Mais ça ne plaisait pas aux voisins, Kitchen Privileges. Ils trouvaient que ça dévalorisait le quartier. Bon, elle s'est félicitée de n'avoir pas installé un panneau en métal. Elle a juste arraché Kitchen Privileges. Et je lui ai dit qu'un jour, j'écrirais un livre et qu'il s'appellerait Kitchen Privileges. J'ai tenu ma promesse.
Dans quel genre de famille est-ce que vous avez grandi? Et pour quelles raisons, surtout, vos ancêtres ont-ils quitté l'Irlande pour les États-Unis?
Mon père est parti à l'âge de 21 ans. On a appelé ça la veillée mortuaire irlandaise, parce que la plupart ne sont jamais retournés voir leur famille. C'est le cas de mon père. Il n'a jamais pu prendre un congé pour revenir au pays. Son frère et ses sœurs l'ont fait. Mais en ce temps-là, il fallait prendre le bateau pour aller en Europe. Et beaucoup de gens ne pouvaient pas se permettre d'arrêter de travailler un mois entier pour la traversée. C'était le cas de mon père. Je me souviens, un jour, ma mère lui a remis une lettre venant d'Irlande. Elle a dit, je savais que j'aurais dû la lui donner après le dîner. Parce qu'après l'avoir lu, il nous a annoncé, ma mère est morte. Ce qui est d'autant plus triste qu'il ne l'avait pas revue depuis l'âge de 21 ans. Et beaucoup ont connu la même histoire.
Alors, du coup, Mary Higgins Clark, l'Europe, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Comment est-ce que vous la regardez?
L'Europe est un ensemble de pays merveilleux. J'ai eu le plaisir de visiter la France très souvent, ma destination préférée, naturellement. J'ai beaucoup voyagé et il n'y a aucun endroit que je n'ai pas aimé découvrir.
Quand vous êtes allé en Irlande pour la première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti?
J'étais enchantée. Je savais que j'avais des cousins là-bas, mais je ne savais pas où exactement. Et sur la route de l'aéroport, j'ai demandé au chauffeur, « Vous savez où se trouve tel village ?» Et il m'a répondu, « Oui, on vient de le traverser. » Je lui ai demandé de faire demi-tour et d'y retourner. C'est comme ça que j'ai rencontré mes cousins irlandais. C'était joyeux. Je suis toujours très amie avec eux et leurs enfants.
Au bout du compte, qu'est-ce qui fait de vous une Américaine, Mary Higgins Clark, à votre avis?
C'est d'abord ma culture qui est américaine. Je le reconnais complètement. Mais si mes livres ont eu autant de succès, je le dois aussi à ma culture irlandaise et à ma bonne étoile.
Vous êtes née à New York. À la fin des années 20, Mary, cette ville, elle est au centre de plusieurs de vos romans. C'est encore le cas dans En secret, votre dernier livre. Qu'est-ce qui fait de New York une ville si romanesque?
C'est un creuset, une ville cosmopolite. Elle l'a toujours été. Tellement de gens de cultures différentes viennent s'installer en Amérique qu'on peut s'y sentir chez soi, n'importe où. Je suis née à New York et j'y ai vécu jusqu'aux 8 premières années de mon mariage. Plus tard, on a déménagé lorsque j'attendais Carole, mon quatrième enfant. Quand on a compris qu'il nous fallait une maison, j'ai dit à mon mari, ne prévois pas de jouer au golf ce week-end. Je ne peux pas caser un enfant de plus dans un 3 pièces. C'est comme ça que nous sommes venus dans le New Jersey.
Mais New York, quand même, c'est aussi la ville du tout est possible. C'est aussi le symbole du rêve américain. En quoi est-ce que vous avez l'impression de l'avoir incarné, ce rêve américain, vous, Mary Higgins Clark, à travers votre parcours assez spectaculaire, il faut bien le dire?
Je suis si reconnaissante pour tout ça. Mais vous savez, rien n'est acquis. Quand un nouveau livre sort, il n'aura pas forcément le succès du précédent. C'est très important de ne pas présumer que les lecteurs vont aimer tout ce que vous écrivez. Les gens sont intelligents. S'ils sont déçus, ils se détournent de vous.
C'est sûr que devenir la papesse du suspense, ça ne s'est pas fait à coup de cuillère à peau, Mary. Votre chemin a été semé d'embûches, de refus, de tragédies, on y reviendra. Quelle est la qualité ou le trait de caractère qui vous a permis d'en arriver là, là où vous êtes aujourd'hui?
Je dirais la persévérance. Je n'abandonnais jamais. Quand j'écrivais des nouvelles dont personne ne voulait, je n'ai jamais renoncé. Je me disais, je vous aurai un jour, messieurs les éditeurs de Madison Avenue. Vous verrez. Un éditeur m'a écrit un jour à propos d'une nouvelle. Madame Clark, vos histoires sont creuses, insignifiantes et banales.
Ma réaction
était, je t'aurai mon petit gars. Un jour, tu me supplieras de t'écrire une histoire.
Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que vous feriez un bon personnage de roman ?
Oui, je ferais sans doute un bon personnage de roman. Ma vie a évolué de manière singulière depuis ma petite enfance. Quand mon père est mort, ma mère était sans le sou. Elle nous élevait seuls, mes deux frères et moi. Puis mon frère est mort dans la marine à l'âge de 18 ans.
Alors qu'est-ce qui fait un bon personnage de roman ? Ce sont les épreuves ? C'est cette trajectoire exemplaire ?
J'ai écrit sur des femmes qui ont trouvé la force de surmonter leurs difficultés. Elles ne sont pas sauvées par un prince sur son cheval blanc. Elles doivent se débrouiller seules.
En ce sens, vous écrivez sur vous ?
Oui, je dirais que c'est vrai aussi pour moi, comme tout le reste.
Celle qui n'est pas du tout un bon personnage dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Marie, c'est la culture et son actualité sans intérêt, sans charme, sans attrait, et qui est délicieusement effrayante, ce qui n'est pas pour nous déplaire tous les deux. Que se passe-t-il donc aujourd'hui ?
Je suis Lucie Taïeb, je suis écrivain et traductrice et j'écris à la fois de la poésie, des essais et des romans.
Vepler et la manière. Hier, le prix Vepler, Fondation La Poste, a récompensé la poétesse et romancière Lucie Taïeb pour son deuxième roman Les Échappées, publié cet automne aux éditions de L'Ogre. Dystopique et poétique, l'ouvrage ausculte les élans d'insoumission face à la violence, l'oppression et le totalitarisme. Dans le même temps, le jury a décerné sa mention spéciale à Bruno Remory, qui entrelace fiction et réalité pour dire le monde horizontal, épatant premier roman, publié aux éditions Corti. Big up les Kiki. Back in the game, ça se précise pour le grand retour du mélodiste californien. Après les morceaux On Eventful Days et Soul Lightning, Beck vient de révéler Dark Places, un nouvel extrait inédit de Hyperspace, son prochain album produit notamment par l'incontournable Pharrell Williams et attendu pour le 22 novembre. Synthé et voix de tête, le pop singer nous livre une épopée mélancolique et hypnotique. Vivement la suite.
Sur la croisette, pavoisée aux couleurs des 19 nations participantes,
Yes, They Can, 80 ans après l'annulation de la toute première édition du Festival de Cannes en 1939, pour cause de Seconde Guerre mondiale, la ville d'Orléans fait revivre et rejouer dès aujourd'hui cette édition manquée. Avec Alex Lutz, son maître de cérémonie, il y aura, comme sur la croisette, des tapis rouges, des palmes d'or, et puis bien des films de l'époque, notamment La Bête humaine de Jean Renoir, Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, ou Mr. Smith au Sénat de Frank Capra. C'est que chier, ça. Pour le hip-hop, on développe. Radio France, c'est de la bombe baby. Pour la quatrième fois, la Maison Ronde accueille ce soir Hip-Hop Symphonique, grand concert de reprise des classiques du rap français, arrangé et joué en direct par le Grand Orchestre Philharmonique. Proposé par nos collègues du Move, l'événement invite pour l'occasion la jeune rappeuse Phénomène, Chilla, mais aussi Nino, SCH, Rimka, du 113, à l'aise. Marie Higgins Clark, invitée exceptionnelle de Boomerang ce matin pour la sortie de son nouveau roman En secret, l'enquête d'une journaliste d'investigation sur une série d'agressions sexuelles et de meurtres à l'heure de MeToo. Le mouvement MeToo, pour quelle raison est-ce que vous avez choisi d'en parler, Mary ?
Parce que c'est l'actualité du moment. Tous les journaux en parlent. Les gens s'y intéressent. Et bien sûr, il y a des hommes qui sont coupables et quelques-uns qui ont été accusés à tort, mais il est très difficile de prouver son innocence. Quand on n'est pas coupable, une fois qu'on est étiqueté, c'est un problème.
La domination masculine, vous avez le sentiment d'en avoir fait les frais, vous, dans votre vie ?
Non.
Non, je ne me suis jamais sentie dominée par quiconque. J'ai quand même eu une fois un patron extrêmement difficile, impossible à satisfaire, quoi qu'on fasse. Et au final, quand j'ai démissionné, il a dû fermer boutique parce que tous les clients m'ont suivi.
Cette prise de parole massive des femmes depuis l'affaire Weinstein, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous?
Well, I agreed with it.
J'étais d'accord avec ce mouvement. C'est vrai, les bons postes ont longtemps été réservés aux hommes et les femmes avaient plus de mal à percer. Et tout cela a changé aujourd'hui, heureusement.
Dans quelle mesure est-ce que vous êtes une féministe, Mary Higgins Clark?
Je suppose,
selon certaines définitions. Mais je n'ai jamais déclaré « je suis féministe », ni ne me suis vue comme telle.
Pourquoi?
Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Je voyais ça comme une tentative de domination.
Et ça veut dire quoi, être une femme libre, pour vous?
Bien sûr, c'est très agréable d'avoir les moyens financiers, de vivre comme je le souhaite, et de pouvoir aider les autres, pas seulement ma propre famille. C'est ça, à mes yeux, le bonheur de la réussite. Pouvoir donner.
Vous vous sentez toujours libre, même quand vous êtes tenu par votre maison d'édition, par contrat, pour écrire un livre par an, comme ça a longtemps été le cas en tout cas?
C'est une bonne chose, parce que si on m'avait donné 2 ans, j'aurais pris 2 ans. Je fonctionne bien avec une date butoir, depuis toujours.
Mais concrètement, quelle image, quelle vision de la femme est-ce que vous avez le sentiment de proposer, vous, à travers vos héroïnes?
Elles doivent être indépendantes. Je ne veux pas que le Père Noël vole à leur rescousse. Parce que les femmes dans mes romans résolvent elles-mêmes leurs problèmes. C'est pour moi une marque de fabrique. Elles n'attendent pas l'arrivée du destrier blanc.
En tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous entendre parler de féminin, Mary Higgins Clark, pas seulement au regard de En secret, votre dernier roman, mais ne serait-ce que compte tenu de votre parcours. Vous êtes devenue l'une des romancières les plus puissantes aux États-Unis. Pour autant, vous êtes née, vous avez évolué dans des époques où l'égalité homme-femme n'était pas vraiment d'actualité. Dans votre vie, est-ce que vous avez quand même eu le sentiment de devoir vous battre pour la seule et simple raison que vous étiez une femme?
Franchement, je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai jamais cru pouvoir obtenir ce que je voulais sans travailler pour ça. Ma vie a été à cette image. Je suis devenue veuve à 28 ans, avec 5 jeunes enfants à charge. Je n'ai pas eu le temps de me lamenter, je devais les nourrir, je n'avais pas le choix, ni n'aurais souhaité autre chose. J'ai été veuve très jeune et maintenant mon mari vient de mourir, après 23 ans de mariage. Et je trouve ça, je l'appelais mon extraordinaire époux. Et comme vous le dira toute femme devenue veuve, c'est un moment très très triste.
Vous lui dédiez ce roman, Mary Higgins Clark, et il faut dire que votre vie, très tôt, elle a été marquée par nombre de tragédies, notamment par la mort de votre père, alors que vous n'aviez que 10 ans. En quoi ce choc, ce traumatisme, il a fait de vous celle que vous êtes aujourd'hui?
Ça a joué un rôle, car j'ai toujours su que je devais travailler. Et je voulais travailler, y compris le samedi. Après 5 jours de bureau, j'allais travailler comme vendeuse chez Lord & Taylor, un grand magasin. C'était un choix intéressé. Je voulais pouvoir m'acheter des vêtements à prix réduit. J'étais surtout motivée par ma coquetterie.
Mais c'est vrai que la mort a jalonné votre existence. Est-ce que la mort vous fait peur?
Non. Je n'ai pas peur de la mort, c'est une partie inévitable de la vie. Donc non, je n'ai absolument pas peur de la mort.
Alors qu'est-ce qui vous fait peur, Mary Higgins Clark?
Ce qui me fait peur, c'est de lire dans le journal qu'une famille a été tuée dans un accident de voiture. C'est encore arrivé récemment dans le New Jersey. Une femme a perdu son mari et ses 4 enfants, tués sur le coup. À la place de cette femme, je n'aurais pas voulu survivre, j'en suis sûre. Son nom est réapparu dans la presse ces derniers jours. Parce que le chauffard responsable de l'accident a échappé aux poursuites. Elle a déclaré que c'était comme les tuer une seconde fois. Et je la comprends. Je comprends sa réaction. Alors oui, les seuls moments où j'ai peur, c'est quand je dis aux enfants, soyez prudents sur la route.
C'est affreusement ordinaire.
Oh, it's an ordinary
feeling. C'est un sentiment ordinaire qu'ont les gens, bien sûr. Ils ne veulent pas que leur proche ait un accident.
On va reparler, bien sûr, de tout cela de peur, après un titre qui, je le sais, va vous faire frémir de plaisir. Ça tombe bien, nous aussi. My Way, par Frank Sinatra, en 1969. C'est une de vos chansons préférées. Vous êtes sur France Inter avec Mary Higgins Clark. Vous écoutez Boomerang, comme d'habitude.
And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through. Without exemption, I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il n'y a aucun suspense, ce matin on est quelque part entre Mamie Nova, Sue Ellen de la série Dallas qui aurait passé un petit peu trop de temps dans la caverne d'Ali Baba. Elle a le cheveu crêpé, doré à souhait, l'œil vert pastel, la bouche vermillon, le doigt long et bagué jusqu'aux oreilles, la pierre précieuse en open bar, avec son petit pull bleu marine et son long pendentif en croix. Ce matin, la romancière américaine Mary Higgins Clark, invitée de Boomerang, pour la sortie de son nouveau livre En secret, c'est le 56e roman. Mary, à force d'écrire autant avec une telle régularité, je me demande quand même, est-ce qu'écrire n'est pas devenu quelque chose de trop facile pour vous?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas présumer que les gens vont adorer chacune de vos phrases. Ce serait absurde.
Mais alors, à quel genre de difficulté est-ce qu'il vous arrive encore de vous confronter quand vous écrivez?
Ça commence dès la première page.
From the beginning,
dès le départ, je me demande, est-ce qu'il y a matière à histoire là-dedans? Je me mets à écrire, et souvent j'arrive dans une impasse, je me dis que je fais fausse route, puis je continue, et il s'avère que l'histoire se tient.
Alors, c'est passionnant de vous entendre parler de méthode d'écriture. Quelle est la vôtre pour tenir la cadence? Par exemple, quel est le point de départ d'un roman de Mary Higgins Clark?
Tout commence par une idée de livre qui me vient. Et le temps que je termine ce livre, j'ai une nouvelle idée dans la tête qui me souffle « Débarrasse-toi de celle-là à mon tour maintenant ». Et c'est merveilleux que ça n'ait jamais cessé. Je vais avoir 92 ans en décembre. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir conservé ce don aussi longtemps.
Et alors, une fois que vous avez l'idée, qu'est-ce que vous faites?
Comment je démarre? Avec le personnage. C'est le personnage qui décide de la qualité d'un livre.
And of course you have to
Et puis, bien sûr, il faut entraîner le lecteur. L'incipit le plus efficace, c'est le fameux « un coup de feu déchira la nuit ». Parce que tout le monde veut savoir qui a tiré et pourquoi.
C'est la question que j'allais vous poser. Le prologue, qui est l'une de vos marques de fabrique, et qui est ce par quoi naît le suspense de vos romans, à quel moment est-ce que vous l'écrivez? Au tout départ?
Yes, I do. I write the
oui,
beginning
au départ.
Of the book first, and then just keep
je commence l'écriture du livre par le début et j'avance, je déroule, en espérant qu'il satisfera mes lecteurs.
Ça veut dire que vous ne savez pas tout quand vous commencez le livre?
Oh, I know what the book
ah si, je sais ce que raconte le livre.
Sure, I have to
Évidemment, je suis obligée de le savoir.
Mais vous connaissez le coupable?
Yes. It's, I don't know how you
je ne vois pas comment on pourrait écrire un livre sans connaître le coupable.
Écrire, au fond, est-ce que vous pouvez vous en passer, Mary Higgins Clark?
Sincèrement, j'écrirai jusqu'à ma mort. Je sais, je n'ai pas envie d'arrêter. J'adore écrire. C'est une bénédiction d'avoir reçu ce don, le don de raconter des histoires.
Quand est-ce que vous avez commencé à écrire?
À l'âge de 6 ans. Dès que j'ai su écrire, j'ai raconté une histoire.
Et il paraît que vos premiers manuscrits, ceux que vous avez envoyés dans les années 50, ils ont tous été refusés, ces refus à l'époque. Comment est-ce que vous les avez vécus?
Oh, I understood it in its course.
Oh, je l'ai compris plus tard. Personne ne connaissait mon nom, j'étais inconnue. Les nouvelles que j'envoyais par la poste me revenaient par retour de courrier. Ils ne se donnaient même pas la peine de les lire.
Il paraît que ces lettres de refus d'éditeurs, vous les avez gardées. Est-ce que c'est vrai, ça?
Yes, I did.
Oui, je les ai gardées. Elles sont là, en lieu sûr.
Well, I accept the fact that you have to keep
Elles ne m'ont pas découragée, il faut persévérer si on pense pouvoir y arriver. C'est ce que je dis aux gens.
If you want to be happy
si vous voulez être heureux pendant un an, gagnez au loto. Si vous voulez être heureux toute la vie, aimez votre métier.
Mais pourquoi vous les avez gardées, ces lettres?
C'est amusant quelquefois de relire ces refus.
Ou alors vous êtes une fétichiste, Mary.
Je ne sais pas.
Not sure.
Pas sûr.
Une fétichiste de livres, peut-être. Qu'est-ce que c'est pour vous un livre? Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que ça représente, cet objet?
Il y a tant de merveilleux écrivains.
Both in France and the United
en France, aux États-Unis, et tous les pays ont engendré de grands écrivains.
C'est un objet, le livre, que vous avez toujours avec vous?
Oh, I keep the books I love.
Je conserve les livres que j'aime, oui.
My own books, of course,
mes propres livres, bien sûr, dont je garde un exemplaire là-haut.
Et qu'est-ce qui fait que vous aimez un roman, vous?
Because of the joy of reading,
c'est la joie
of
de lire,
into a story,
de rentrer dans une histoire
and then not wanting to
et ne plus vouloir la lâcher.
That's a good story.
C'est ça, un bon roman.
Pourquoi est-ce que vous êtes spécialisé dans le roman à suspense, en fin de compte?
I don't know.
Je ne sais pas.
It was just that that's where
c'est
my
ce
mind
qui m'attirait, m'obsédait.
C'est très inquiétant.
Well, I loved Agatha Christie.
J'aimais beaucoup Agatha Christie.
And I was always trying to be with her.
J'ai essayé toujours d'être dans sa tête, de deviner qui avait fait le coup. Quelquefois j'y arrivais, d'autres fois non.
So I'd re-read
Alors je relisais le livre. Pour y trouver les indices qui m'avaient échappé. C'était ma façon d'apprendre à écrire des romans à suspense.
Mais c'est-à-dire que la vie est bien faite, vous auriez pu devenir sinon la reine de la romance à l'eau de rose. Ça vous aurait pas tenté, ça?
Ça ne m'a jamais attirée.
Pourquoi?
Là encore, il y a l'idée qu'un beau prince va débouler sur son cheval blanc pour résoudre vos problèmes. Ça ne m'intéresse pas.
Et qu'est-ce qui vous fascine à ce point dans le crime?
Je ne sais pas. Mais depuis ma découverte d'Agatha Christie et de bien d'autres ensuite, je suis fascinée par les histoires de crime, plus que par les histoires d'amour.
Est-ce que vous croyez au mal?
Oui, je crois que le mal existe. Oui.
Et qu'est-ce que ce serait, le mal?
Pour moi, le mal nous ramène au bon vieux commandement. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Quand vous brisez cette règle, vous tombez dans le camp du mal.
Dans quelle mesure est-ce qu'écrire des livres, c'est pour vous une façon de faire le bien, Mary Higgins Clark?
Ça l'est pour moi, en un sens, oui. Quand les choses s'arrangent pour mes personnages, quand ils s'en sortent par eux-mêmes, grâce à leur sens moral et leur intelligence.
Alors c'est une façon de rendre le monde meilleur, d'écrire?
du moins d'avoir un monde où les gens bienveillants dominent.
Vous êtes une moraliste, Mary.
Peut-être. Oui, sans doute.
Et ça nous va très bien. Merci infiniment, Mary Higgins Clark, d'être venue faire un tour dans cette émission. Et merci à votre interprète ce matin, la pétulante et suspecte Eve Dare. Je rappelle que En secret, dans une traduction d'Anne Damour, est publiée chez Albin Michel, que ça se boit comme du petit lait. Mary, vous remarquez que je ne vous ai rien spoilé. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça. Field 61, l'épée sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'instant M.
Je suis là, Augustin. On se retrouve demain.
À demain.
Allez, ciao.